La dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
À l'occasion de la nuit Science et Lettres qui se tiendra à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris le vendredi 3 juin, c'est-à-dire à la fin de cette semaine, France Culture propose toute une semaine d'exploration des nouveaux domaines des savoirs et met en avant de jeunes chercheurs qui incarnent le renouveau de leur discipline. La fabrique de l'histoire, les nouveaux chemins de la connaissance, Culture Monde, les sciences et bien d'autres émissions encore se prêteront à l'exercice et ont commencé de le faire dès aujourd'hui. Quant à nous, il nous a semblé que nous ne pouvions consacrer une semaine au savoir de demain sans prendre en considération la donne numérique. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons un passeur de sciences humaines et sociales, comme il se présente, l'un des héros des humanités numériques, lauréat de la médaille de l'innovation 2016 du CNRS, qu'il a pas encore reçu, mais qu'il a reçu, disons, symboliquement le 11 mai. La médaille en elle-même lui sera remise, je crois, le 14 juin prochain. Lauréat pour ses travaux favorisant la démocratisation du savoir. Marin Dacos, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous.
Merci.
Vous êtes directeur du Centre pour l'édition électronique, fondateur et directeur d'Open Edition, bien entendu. On va revenir sur ce qu'est Open Edition. Vous êtes informaticien, historien de formation et ingénieur de recherche au CNRS. Pour dialoguer avec vous, vous interrogez à nos côtés. Mathieu Pottebonneville, philosophe, est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Alors je disais que vous êtes, Marin Dacos, l'un des penseurs, l'un des acteurs de ces humanités numériques dont on parle depuis très peu de temps, disons, allez, 5-6 ans. Un manifeste des Digital Humanities avait été écrit, vous étiez l'un des signataires, l'un des initiateurs en 2011, donc on peut dater ces humanités numériques effectivement de cette époque-là. Est-ce que déjà les humanités numériques, on y voit un petit peu plus clair aujourd'hui sur ce que c'est, science, métascience, discipline, croisement de disciplines? Il faut quand même revenir à la source pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'en auraient jamais entendu parler.
Alors, en fait, le manifeste date de 2010, mais on connaît les premiers exemples d'utilisation du numérique par des chercheurs en sciences humaines et sociales depuis la fin des années 1940. C'est Roberto Busa.
Beaucoup plus vieux qu'on ne le pense.
Voilà.
Alors.
Donc ça, c'est la première chose. C'est pas une nouveauté. En revanche, effectivement, l'intitulé a une dizaine d'années et son portage en France par le Manifeste des humanités numériques est plus récent. Mais avant, il y avait d'autres noms pour dire en gros la même chose, qui est que le numérique change le rapport à la science, à la fois à sa production et sa diffusion. Donc évidemment, on comprend bien qu'avec l'apparition des bases de données, avec l'apparition du web, ça a pas mal changé la façon de travailler des chercheurs, ça a pas mal modifié le travail, l'atelier du chercheur, ses conditions de production. En particulier, il a des potentialités de travail beaucoup plus collectifs, qui nécessitent une coordination entre les acteurs pour construire des bases de données, des corpus et des ensembles numériques qui peuvent produire des connaissances nouvelles par rapport à ce qu'on pouvait construire de façon plus isolée dans le fonds d'archives. Hein, je suis historien de formation, mais il n'y a pas que des fonds d'archives, les terrains, etc. On peut beaucoup plus mutualiser et travailler de façon collective avec les humanités numériques qui sont pas seulement des humanités, ce sont les sciences humaines et sociales au sens large.
Les arts et les lettres sont concernés.
Exactement,
également.
Exactement, les arts et lettres. C'est très englobant, même si l'intitulé venant du monde anglo-américain, il a été limité dans leur région, dans cette région du monde, on sépare beaucoup plus sciences sociales de sciences humaines. Et en France, on a un département, un institut des sciences humaines et sociales au CNRS, donc tout va ensemble.
L'Open Edition, c'est une plateforme d'édition électronique, Marin Dacos, qui rassemble 4 plateformes différentes. Revue.org sur les revues, Open Edition Books qui s'occupe des livres, Hypothèses qui sont comme des carnets de recherche, et Calenda, c'est l'annonce scientifique d'écologues à venir qui recense toutes les manifestations en matière scientifique. En quoi Open Edition favorise-t-elle la démocratisation des savoirs, puisque c'est pour la démocratisation des savoirs que vous avez reçu votre médaille de l'innovation 2016?
Bah, je vous propose qu'on se fasse un petit saut spatio-temporel vers 1985 et se posant la question de comment ça fonctionnait à cette époque-là. En 1985 ou 90, on publiait des revues. On a à peu près 1000 revues en sciences humaines et sociales en France, à peu près. Et toutes ces revues avaient en moyenne, j'enlève les Annales et l'Homme, enfin quelques exceptions, 300 abonnés. 300 abonnés qui sont des bibliothèques et donc potentiellement 300 ou 600 lecteurs, disons. Et en arrivant dans le domaine du numérique, ces revues, elles ont eu affaire face à un choix. On était bien d'accord tous qu'il fallait aller en ligne puisque c'était le nouvel endroit de diffusion. Mais est-ce qu'il fallait le faire à l'ancienne, c'est-à-dire en mettant en place des barrières pour faire payer les abonnés pour continuer à faire fonctionner le modèle économique de la revue? Ou est-ce qu'il fallait faire sauter cette barrière pour changer le paradigme? C'est ce qu'on appelle Open Edition, c'est l'édition en tirage illimité, c'est-à-dire qu'on ne bloque plus la diffusion. Du coup, on multiplie potentiellement le nombre de lecteurs, mais on le multiplie littéralement. Et surtout, au lieu d'avoir un lectorat qui est cantonné à la bibliothèque universitaire, qui est cantonné au bureau des campus des chercheurs, on a un lectorat qui explose d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enseignants du secondaire, on peut avoir des journalistes qui ne sont pas abonnés aux plateformes scientifiques, on peut avoir des citoyens, des auteurs de Wikipédia qui ont enfin des sources fiables pour produire un nouveau niveau de connaissances plus généralistes, etc. Bref, on permet de toucher des gens qui, historiquement, ne pouvaient pas avoir accès, ne pouvaient même pas savoir que les revues et les autres contenus que nous diffusons, que ces contenus existaient, mais même s'ils avaient su qu'ils existaient, ils n'en avaient pas la possibilité technique d'y avoir accès.
La principale objection, quand même, celle de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, sous l'influence du mythe de la gratuité, elle parle de la loi Lemaire notamment, la secrétaire d'État au numérique, on incite les chercheurs à mettre en accès gratuit leurs publications scientifiques dans des délais tellement courts que la plupart des institutions académiques françaises et étrangères seront encouragées à se désabonner de ces revues scientifiques françaises et que le marché va s'effondrer. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque, effectivement, de tarissement de tout ce qui est produit s'il n'y a pas de revenus par système de gratuité ouverte?
Marin Dacos.
C'est une jolie question. Alors, je suis obligé de faire un petit détour. Il faut savoir que le prix, le coût éditorial, c'est 1% du coût de recherche. Donc c'est le dernier kilomètre. Si on imagine qu'on parcourt 1000 kilomètres de recherche, on a fait 9999 kilomètres pour faire la recherche, puis le dernier kilomètre c'est l'édition, c'est un tout petit coût. Mais si vous mettez 0,1 euro, donc 10 centimes d'euro de coût d'entrée à un article, vous bloquez, vous divisez par 10 le potentiel de lectorat. D'accord. Donc c'est pas une question de montant, c'est une question de nature de l'accès. Bon, maintenant pour répondre sur la question économique, il n'y a pas de marché des revues en sciences humaines et sociales. C'est faux, il n'y a pas de marché. Aujourd'hui, le CNRS finance à travers 3 millions d'euros de subventions les revues, y compris des revues qui se plaignent de l'étatisation de l'accès au savoir par la loi sur l'open access, la loi numérique. Donc, en fait, on n'est pas dans un système de marché.
Donc, les abonnements ne rapporteraient pratiquement rien, c'est ça que vous dites?
Oui, c'est
aujourd'hui.
Ça. Et donc, en revanche, nous, on a toujours refusé de dire qu'il s'agissait de gratuité. On n'a jamais utilisé ce terme parce qu'effectivement, le travail d'édition, ce dernier kilomètre dont je parle, il faut bien le financer. Et il est financé très largement par l'État, par le CNRS, par les universités, mais pas complètement. Et donc, il faut bien qu'il y ait un peu de liquidité qui circule. Et il faut bien payer les salaires des gens qui sont des professionnels de l'édition. Et
Alors, vous trouvez l'argent pour nous,
il faut le trouver quelque part. Donc, il y a pas beaucoup de modèles. Le modèle qui s'est imposé dans certaines disciplines, c'est le modèle de l'auteur-payeur que nous détestons. C'est un modèle dans lequel, au lieu de faire payer le lecteur, on fait payer l'auteur. Bon, on a déplacé le problème et surtout on a accentué des inégalités d'accès, non pas à la lecture, mais à l'écriture. Donc on imagine bien que les disciplines pauvres vont être bloquées, que les laboratoires pauvres vont être bouclés. Et puis à l'intérieur même des laboratoires, ceux qui n'auront pas le pouvoir d'activer une dépense qui s'étale quand même entre 1000 et 5000 dollars pour publier un article. Évidemment, on comprend bien qu'il y a des gros problèmes éthiques. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre solution? Il y en a au moins deux. J'enlève la publicité, puisqu'on comprend bien qu'elle pose des problèmes éthiques dans nos domaines où on a besoin d'indépendance. Mais on a le modèle de la souscription, qui est un très vieux modèle, un extrêmement vieux modèle qui a été réinventé en Angleterre par Knowledge & Latch. Et puis nous, on a proposé un modèle qui s'appelle le freemium, qui est un autre modèle dans lequel, dans les deux cas, on s'allie avec les bibliothèques et on leur dit « écoutez, vous êtes pour l'accès au contenu dans votre bibliothèque, on en est bien d'accord, et c'est votre première mission, mais vous souhaitez aussi contribuer à la diffusion des connaissances dans le monde entier. Et si vous étiez d'accord, on vous proposera un partenariat financier dans lequel vous nous aidez à financer l'open access en échange de la gratuité de la diffusion en open access. » Alors j'enlève le mot gratuité que je viens de dire, parce que vous êtes d'accord, je l'ai dit, je ne suis pas pour, puisque je pense qu'il faut bien qu'on paye les professionnels. Et donc, les bibliothèques peuvent financer les revues sans obligatoirement que les revues soient en accès restreint. et du coup, on change géographiquement le potentiel, j'allais dire le potentiel heuristique, mais aussi le potentiel démocratique de la diffusion de la connaissance. Je peux vous montrer les cartes de la fréquentation d'Open Edition. Le deuxième pays qui consulte le plus Open Edition, c'est les États-Unis d'Amérique. Le troisième, c'est l'Allemagne. Je peux vous garantir que ça, c'est grâce à l'open access, c'est grâce à l'accès ouvert.
Donc l'enjeu, Marin Dacos, il faut bien trouver un modèle économique qui va avec, mais l'enjeu, c'est vraiment l'accès au savoir pour tous.
C'est l'enjeu, et ensuite, il faut trouver des solutions, il faut mobiliser les bibliothèques, les pouvoirs publics, sachant que c'est encore une fois pas un vrai marché, c'est un marché essentiellement sous perfusion d'État, ce qui est normal, puisque les sciences humaines et sociales ne rapportent pas grand-chose, si ce n'est en savoir et en compréhension du monde.
France Culture, la grande table. Caroline Brouet.
Comment encourager la diffusion de la connaissance scientifique ? Zoom sur les humanités numériques et leurs questions quant à la production et la diffusion du savoir aujourd'hui avec Marin Dacos, qui est directeur du Centre pour l'édition électronique, fondateur et directeur d'Open Edition et lauréat de la médaille de l'innovation 2016 du CNRS. Autour de la table, Antoine Mercier, que vous avez déjà entendu, et le philosophe Mathieu Pottebonneville. C'est à vous, Mathieu.
Oui, je me disais en vous écoutant qu'on était parti très vite sur des questions de financement, de modèle économique, de rivalité, au fond, entre différents types de supports. Je trouve qu'il faudrait rapporter la question de l'édition ouverte à ces enjeux fondamentaux, en fait. Je me souviens d'un texte de l'historien de la Grèce ancienne, Jean-Pierre Vernant, où Vernant expliquait que ce qui se passe aux alentours du VIe siècle avant notre ère, c'est la bascule entre deux modèles du savoir. Il y a un modèle du savoir qui est le modèle du savoir initiatique, et au fond, un savoir initiatique vaut pour autant qu'il n'est pas partagé, pour autant qu'il est réservé à ceux qui sont initiés, et puis se met en place à ce moment-là un autre modèle du savoir, qui est le modèle théorique, qui s'authentifie au contraire du nombre de gens qui le partagent. Autrement dit, naît cette idée étrange que plus nous sommes nombreux à considérer des contenus, à examiner des théories, à pouvoir les discuter aussi, les comprendre, et plus ces théories sont valables, ce qui s'oppose évidemment à l'ancien régime du secret. Moi, j'ai l'impression que dans les enjeux d'édition ouverte, davantage que la question de savoir si on peut aller piocher dedans ou pas, c'est quelque chose de l'ordre de la validation même de ces contenus. Moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Est-ce que, quand on parle de démocratisation du savoir, est-ce qu'il s'agit seulement de démocratiser des savoirs qui sont constitués, ou est-ce que ça change aussi l'étoffe même de ces savoirs et leur mode de fabrication, leur mode de validation, etc. Qu'est-ce que ça implique pour la science que d'être ouverte ?
Alors effectivement, c'est l'étape d'après. On parle d'accès ouvert et ensuite de science ouverte. Et la science ouverte, c'est l'irrigation des paradigmes de l'ouverture ou de l'open sur non seulement la diffusion, mais aussi tous les processus de fabrication. Alors j'entends fabrication intellectuelle, par exemple, on est en train d'avancer sur la diffusion de nos corpus. Quand un chercheur, jusqu'à présent, dans une revue papier, il prétendait qu'il avait vu dans les registres paroissiaux une croissance démographique ou au contraire une régulation des naissances et qu'il pouvait le déduire de ces données, on ne devait le croire que sur parole. Et on ne pouvait pas reproduire son travail puisqu'il fallait retourner aux archives et refaire 5 ans de consultation d'archives. Désormais, on peut techniquement diffuser le corpus avec le produit intellectuel qu'on en a déduit et quelqu'un d'autre va pouvoir contredire, affiner, réutiliser les données. Et évidemment, ça change absolument tout parce que du coup, ce sera l'administration de la preuve est beaucoup plus solide, d'une part, et d'autre part, en plus, on peut imaginer qu'on réutilise des corpus à des fins qui n'étaient pas prévues. Et à des fins, on a bien vu que, par exemple, les registres paroissiaux n'avaient pas été conçus pour qu'on puisse découvrir qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y avait une régulation des naissances. Mais on a réussi à le déduire grâce à une réutilisation d'un même corpus 50 ans après ou 100 ans après leur abandon.
Ça ne va pas faire un Wikipédia de la science ?
Voilà, alors c'est une des options, effectivement. Je parlais d'une part des corpus, mais on peut effectivement aller jusqu'à la production collective. Et ça, c'est pas très simple de passer à l'auteur collectif en sciences humaines et sociales, ce qui est encore une figure du tutélaire du génie de type Victor Hugo, Émile Zola, qui produit une œuvre individuelle. Mais on pousse dans cette direction avec la plateforme Hypothèse, dont vous avez évoqué un mot, Caroline Brouet. La plateforme Hypothèse est une plateforme de carnet de recherche, c'est-à-dire une version électronique des carnets de terrain des chercheurs. Et là, on commence à avoir des espaces où on s'exprime avant la publication, où on a des commentaires, où on peut du coup interagir entre collègues et d'ailleurs entre gens qui ne sont pas collègues, de façon à produire un savoir qui soit plus collectif.
Et l'auteur disparaît dans tout ça ?
Jamais. Ah bon. Jamais. Il n'a jamais disparu de Wikipédia. Il ne dit pas, disparaît
quand
pas.
Quand on lit Wikipédia, parfois, on se demande s'il y a quelqu'un
qui. La question d'Antoine était beaucoup plus connotée que vous l'avez compris, en fait.
Alors, l'auteur ne disparaît pas. Vous avez une licence dans Wikipédia qui vous oblige à citer les auteurs. Et donc, en Allemagne, il y a quelques années, un éditeur a imprimé une partie de Wikipédia et il y a à la fin 400 pages de liste d'auteurs. Ces auteurs ne sont pas anonymes.
Excusez-moi, c'est pas tant les noms que la manière dont c'est exprimé. C'est-à-dire, ils sont quand même de lissage global. Mais enfin, peut-être que Mathieu peut vous
dire. Il faudra un jour, Antoine, que Morin Dacos, que j'ai entendu une fois faire ça, vous explique comment lire une notice Wikipédia et comment lire l'apparat critique, le back-office, ce qui se trouve derrière la notice et qui rend compte, au fond, des débats et de l'élaboration même de la notice. Là où on retrouve toutes ces formes de validation toutes ces manières de se faire un jugement critique que la notice semble faire disparaître. C'est passionnant. Mais la question est effectivement importante. Ce qui est très troublant avec Open Edition, avec la manière dont fonctionnent ensemble hypothèse.org, revue.org, etc., c'est que ça fabrique une sorte d'environnement, hein, comme on dirait aujourd'hui un écosystème. La métaphore est devenue très fréquente, même exaspérante. Et cet environnement.
Ne la reprenez pas alors.
Non, c'est comme ça.
Il est éco-responsable.
En fait, elle est bonne, la métaphore.
Mais c'est un environnement. Alors, c'est intéressant. Et en même temps, c'est compliqué parce que la science a toujours reposé un temps sur une certaine limite entre, disons, le moment de la découverte, la discussion, etc., et puis le moment de la validation, de l'administration de la preuve, où là, on passe à un autre type de registre. Ceux qui vous reprochent, au fond, ou qui s'inquiètent de savoir si le numérique ne va pas dévaloriser les revues, s'inquiètent de ça. Ils disent, au fond, si les revues se fondent ou se mettent à baigner dans cet environnement textuelles, est-ce qu'elles vont pas perdre leur fonction première de validation des contenus scientifiques?
Mais c'est pas qu'une question
de justification de la connaissance
économique ou financière. En effet, c'est vraiment même est-ce qu'elles ne vont pas perdre non seulement leur rôle, leur nature, mais aussi peut-être la qualité de la production scientifique s'en ressentirait. C'est ça qui est au fond peut-être.
Alors, vous avez noté que notre écosystème, parce que c'est bien un écosystème, mais c'est même un écosystème d'information. Si vous voulez, on y reviendra. Dans notre écosystème, on a mis en place un portail Open Edition et 4 plateformes. Et chacune respecte les objets éditoriaux. On n'a pas mis hypothèse.org dans Open Edition, on l'a pas mis dans revue.org parce qu'on a voulu respecter les formes éditoriales canoniques. Parce que dans le manifeste des humanités numériques, on dit bien qu'on ne repart pas à zéro. Qu'on est, et je réponds sur votre question de l'auteur tout à l'heure, on est des nains juchés sur les épaules de géants. Ça n'a jamais été des auteurs individuels, on a toujours été des auteurs collectifs.
Oui, mais c'était les géants du passé, pas les géants de la collectivité générale.
Oui, alors là, je vous invite à lire Jacques Lévy sur l'intelligence collective.
Voilà, c'est ça le problème.
On pourra en reparler dans une prochaine émission. C'est vraiment étonnant que ça ait été écrit avant l'émergence du web. Et là, il y a quelque chose vraiment à creuser. Mais pour ne pas perdre mon fil, que j'ai perdu, simplement, les formes éditoriales canoniques, on les maintient. Donc, revue.org, c'est un espace dans lequel on héberge des revues, et ce sont des revues canoniques, c'est-à-dire qu'elles sont expertisées, les revues chez nous sont expertisées, évaluées. Ensuite, elles sont donc acceptées ou refusées, un taux de refus assez important. Et ensuite, elles-mêmes procèdent à une double expertise en aveugle de tous leurs auteurs, de tous leurs articles.
Qui sont les experts?
Ce sont des collègues. Hein. C'est l'évaluation par les pairs. Et donc, ce qu'on appelle les pairs, ce sont les autres chercheurs. Et donc, c'est la règle dans notre environnement. Mais pour rester à l'objet revu, on a quand même introduit des évolutions, non pas sur cette phase d'évaluation qui, elle, est un petit peu la base et de la reconnaissance et de la validité d'une revue, mais plutôt sur les rythmes, par exemple. Et donc, on a des revues qui ne sont plus à numéro, puisqu'on n'a plus tout à fait besoin d'imprimer, alors même si on a des revues papier pour la moitié, mais on n'a plus tout à fait besoin d'imprimer. Donc, comme on n'attend pas qu'un volume soit prêt, pour publier un article. Dès là que l'article est prêt, on peut le publier. Voilà, ce sont des petites évolutions qui sont possibles quand les revues le souhaitent. Et c'est toujours jamais la technostructure que nous proposons, puisqu'on est une infrastructure nationale et donc c'est beaucoup de technologies. On propose et les revues disposent.
Mathieu ?
Ce n'est pas une évolution qui va de soi, elle suscite de fortes réticences. J'ai lu, voici quelque temps, que je ne sais plus quelle section du CNU ne voulait pas que les revues en accès ouvert aient le même statut pour les chercheurs que les publications dans des revues, disons, standards. Ouais. Il y a encore des batailles de ce point de vue-là, sur la reconnaissance du fait que... Peut-être d'ailleurs lié à un réflexe, cette idée que le papier vaut mieux que le numérique. Je pense que ce réflexe-là, il est quand même encore très présent.
C'est vraiment la queue de la comète. J'ai créé Revue Pas en 1999. Pendant disons jusqu'en 2007, c'était vraiment chaud. C'était vraiment dur. On nous accusait de tous les maux, de la destruction de la science, etc. Aujourd'hui, ce dont vous faites état existe, mais c'est très minoritaire et de plus en plus minoritaire. Quand même, effectivement, il y a une section du CNU, du Conseil national des universités, qui a effectivement dit que les revues en open access n'étaient pas valides. C'est très étrange de la part de scientifiques de confondre le support avec le contenu. C'est vraiment très étrange. C'est une forme ou bien de superstition ou bien d'animisme ou les deux. Mais d'un point de vue purement scientifique, je ne vois pas la différence. Si on change de support, si j'imprime, ça devient bon. Si je n'imprime plus, ça devient mauvais. Enfin, c'est ridicule. Donc ça, c'est vraiment la queue de la comète. Il n'y a plus beaucoup de discussions, y compris sur l'accès ouvert. Il n'y a plus beaucoup de discussions sur est-ce qu'il faut y aller. La question, c'est comment. Et ça, c'est la vraie question.
On a vu quand même un certain nombre de tribunes dans la presse ces derniers mois, là au moment justement de la présentation du projet de loi pour une république numérique, dont l'article 17 suppose que tout auteur d'un écrit scientifique, principalement financé sur fonds publics d'ailleurs, puisse le mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique. 6 mois après sa première publication pour les sciences techniques et 12 mois pour les sciences humaines et sociales, Marin Dacot, c'est cette discussion autour de l'article 17 du projet de loi a suscité pas mal de réserves, des publications pour, contre. Bon, ça exclut pour le coup nous qui sommes peut-être les premiers destinataires, pas les premiers, mais disons les deuxièmes destinataires, puisque votre enjeu c'est l'accès du savoir pour tous. Et en même temps, on sent que c'est peut-être des micro-discussions, on n'arrive pas forcément à se rendre compte de la portée que ça peut avoir. Mais ça fait débat quand même.
Ça frotte un peu.
Au sein de la communauté scientifique, disons.
Ça frotte un peu, mais revenons en 2012, quand la Commission européenne a proposé que tous les travaux financés par la Commission soient publiés en accès ouvert 6 à 12 mois après leur publication. Il y a eu en France une émotion à ce sujet. Il y a eu une pétition contre qui a recensé peut-être 300 ou 400 ou 500 signataires. Et une pétition pour, à laquelle j'ai participé. Et là, les mêmes ont produit une nouvelle pétition, laquelle vous faites...
C'est la mode, les pétitions.
Voilà. Il y a eu 6 signataires, peut-être 7. Portés par des plateformes qui ont des centaines de revues. Moi, je compte une profonde... et très radicale décroissance des troupes anti-accès ouvert. La question n'est pas est-ce qu'on y va, la question est comment est-ce qu'on y va. Et donc, c'est vrai que ce sont des gens qui ont encore une capacité médiatique, de visibilité assez importante. Mais en plus, ce qui est étonnant, c'est que dans la tribune qui était publiée dans Le Monde à laquelle vous faites allusion, plusieurs des revues concernées, signataires, ne sont pas concernées par la loi, puisque ce ne sont pas des revues de recherche. Donc du coup, on nage en pleine confusion. Et donc si on garde seulement les revues de recherche, on n'obtient plus que 4 sur 1000 revues.
Bon, donc mouvement inéluctable.
Et qu'est-ce que vous en attendez finalement au fond par rapport à la recherche elle-même, vous, comme transformation?
Mais ça change tout. Au lieu de m'adresser simplement à 250 collègues, je m'adresse
à... Oui, mais ça c'est la diffusion, mais sur le fond de la recherche.
Ah d'accord, c'est la même question.
Je reprends cette question.
Alors là, il y a la réutilisation des corpus. Et puis, ce qui est vraiment fondamental, c'est que on change la vitesse, c'est-à-dire et le formalisme, c'est-à-dire en particulier sur les carnets de recherche. Vous avez compris que ce sont des blogs en fait. On co-construit beaucoup plus et on est en train de tester des commentaires ouverts, des évaluations ouvertes. On n'est pas sûr que ça débouche parce que c'est compliqué à mettre en place, mais clairement, c'est beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'accès, beaucoup moins de rétention d'informations. Et j'insiste sur un point sur lequel j'ai pas encore insisté, c'est que en réalité les difficultés d'accès aux ressources sous protection et barrières commerciales ne sont pas que à l'intérieur de la société civile. Dans les universités, il y a un énorme écart d'accès aux connaissances et donc en fait, ce sont des connaissances stériles, celles qui ne sont pas diffusées en un accès ouvert. Je vais vous donner 2-3 chiffres. Il y a une grande université qui s'appelle Harvard qui a 98 000 abonnements en 2008. Une petite s'appelle Yale, qui n'en a que 76 000. Et le plus grand établissement indien en a que 10 000. Donc vous voyez qu'à l'intérieur du top 10 ou du top 100 des universités les plus riches, il y a déjà d'énormes écarts d'accès aux ressources scientifiques. Et donc comment est-ce que vous pouvez produire de la science si vous n'avez pas accès à la science telle qu'elle est en train de se faire? Donc c'est aussi une question heuristique, c'est une question méthodologique. Si on n'a pas accès aux ressources, on ne peut pas travailler. Et ça se fait au prorata de la richesse des établissements, c'est-à-dire pas du tout au prorata de la qualité des chercheurs.
Mathieu Podenville.
Oui, alors on entend bien que le combat pour l'édition ouverte est un combat pour l'égalisation de l'égalité des conditions de l'accès au savoir. En même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a aussi des grandes manœuvres dans ce secteur-là, qu'il y a des enjeux et des rivalités qui se reconstituent ailleurs. Je pense par exemple à la question de la langue, des langues de la recherche, où je pense à la question des standards et de la définition des standards, parce que qui dit numérique dit standard de numérisation, dit des instances, des consortiums qui définissent ces standards, on y est ou pas, et ce sont des enjeux qui sont considérables.
Ils
sont énormes. Alors nous, en Open Edition, et à travers Open Edition, le CNRS, l'Université d'Aix-Marseille, l'École des hautes études en sciences sociales, l'Université d'Avignon, on essaye et on fait partie des grandes discussions internationales pour définir les futurs standards de ce que c'est que l'accès ouvert, qu'est-ce qu'une bonne revue en accès ouvert, qu'est-ce qu'une revue vraiment en accès ouvert, etc. Et il y a des paradigmes qui sont imposés par certains acteurs. Alors soit par des acteurs qui ont une culture très différente de la nôtre, soit parce qu'ils ont des intérêts économiques très différents des nôtres. Dans les deux cas, on a besoin d'être autour de la table. Et donc, il ne faut surtout pas regarder le train passer, il faut monter dans le train et dire les règles du jeu sont en train d'être définies techniquement, éditorialement, scientifiquement, on veut être en faire partie. Et donc on discute avec Google Scholar, on discute avec Crossref, on discute avec le Director of Open Access Books, on discute avec tous ces gens qui vont fixer les nouveaux étalons, qui vont fixer la valeur et les repères de la science de demain.
Donc ça, vous nous parlez beaucoup de validation, etc., comme s'il s'agissait d'établir des faits, comme si c'était un vaste fact-checking de la recherche. Et on voit bien que tout cela peut se faire, en tout cas, aux dépens précisément de la position, de l'opinion, de l'interprétation de ce qui n'est pas précisément vérifiable ou prouvable de manière évidente. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne va pas privilégier certaines formes de recherche plus factuelle par rapport à des recherches plus intellectuelles?
Mais je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est exactement ce qu'on dit avec Mathieu Podenville. C'est que, je vais vous donner un exemple. Les leçons inaugurales du Collège de France qui sont sur Open Edition Books, avec la leçon de Patrick Boucheron que nous venons de publier en accès ouvert. Je vous invite à la lire si vous ne l'avez pas encore appris.
Et qui vient de paraître en livre.
Absolument, en même temps. Bon, ces leçons, tout le monde sait en France qu'elles sont d'une très grande qualité. Elles sont des repères absolument fondamentaux dans l'histoire des sciences. Aux Pays-Bas, le Collège de France, c'est une institution, c'est un nom de loin. Et donc quand on veut faire valider, on soumet au répertoire de référence les leçons inaugurales du Collège de France, ils nous répondent « Est-ce que ça a été validé par les pairs ?» Alors techniquement non, parce qu'effectivement il n'y a pas une double expertise en aveugle sur la leçon inaugurale du Collège de France. Mais on sait que Patrick Boucheron a mis 30 ans à être validé toute sa vie. Et donc on répond « Attendez, vous êtes sur un paradigme unique et nous on vous présente plusieurs paradigmes, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation des leçons inaugurales, mais ce n'est pas la procédure habituelle qui vient des sciences physiques ou de certaines formes de sociologie. Et donc nous, on promeut ce qu'on appelle la bibliodiversité, la diversité des modèles à de langues, de procédures et de paradigmes.
Vous voyez la métaphore de l'écosystème, Mathieu Bonnevie,
elle ne dépasse. Ça fonctionne, j'en suis ravi. Non, c'est très intéressant parce que
Évidemment, l'expression humanité numérique, qui a un côté un peu provocateur, puisque c'est l'alliance apparemment des contraires, va de pair depuis très longtemps avec une inquiétude, l'idée que l'introduction du numérique dans les sciences humaines viendrait nier cette dimension d'interprétation, cette dimension au fond du sens, au profit de recherches quantitatives. Et ce que vous dites, c'est que ce n'est ni vrai ni le contraire, c'est un combat, c'est un débat.
Exactement ça. C'est à nous de le faire. Et donc, encore une fois, dans beaucoup de secteurs, on a beaucoup dit, on ne sait pas trop comment ça va marcher le numérique, donc on va attendre que ça se décante. Et puis quand Google domine tout, on dit, ah, c'est scandaleux, Google domine tout. Non, c'est quand les choses sont en train de se faire, c'est-à-dire en 99, qu'il faut démarrer un processus de construction, de regroupement des forces très dispersées. En sciences humaines et sociales, les acteurs sont très dispersés pour avoir une masse critique. Et du coup, aujourd'hui, on discute facilement avec Google Scholar, ce qui n'aurait pas été possible en tant que revue isolée. Donc ça, c'est extrêmement important. Et derrière, il y a aussi des modèles économiques qui essayent de... Alors, pendant des années, Elsevier, un des trois grands éditeurs de l'oligopole en sciences techniques médecine, était contre l'accès ouvert. Soudain, il a viré sa cutie, il est pour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça lui plaît bien de faire payer 2 500 $ pour publier un article. Il suffit qu'il en publie deux fois plus pour gagner deux fois plus d'argent. Et ils sont déjà plus gros qu'Hachette, ils ont des bénéfices plus gros que Total. Donc là, il y a bien une question de paradigme et de modèle sur lesquels il faut qu'on discute. Et on a besoin des États et des initiatives comme Cielo au Brésil, Redalic au Mexique ou Open Edition en France pour faire contrepoids.
Oui, c'est international ce dont vous parlez. Hein.
On ne parle pas du tout de la France, là.
Alors, précisément, quels sont vos atouts ? J'allais dire quels sont nos atouts, dans un accès patriotique. Quels sont vos atouts pour peser ou pour vous faire entendre dans ce rapport de force-là, dont on voit bien qu'il est mondial, au fond ? Quelle est la stratégie ? Quels sont les grands éléments de stratégie qu'on adopte quand on veut faire entendre la voix de la recherche française et la voix de cette bibliodiversité à l'intérieur de ce champ particulièrement saturé?
Moi, je dirais trois points. Un, renoncer à la France, c'est-à-dire... C'est de dire on est une plateforme sans frontières, au moins européenne. La bibliodiversité, c'est pas commencer par dire on est une plateforme en français. C'est-à-dire ouvrir évidemment à la francophonie, mais ça va de soi, mais ouvrir à l'espagnol, ce qui à l'allemand, à l'anglais, à l'italien, pourquoi pas l'anglais. Mais c'est compliqué parce qu'il faut qu'on évalue des titres dans des langues qui sont différentes. Donc on a des conseils scientifiques en Italie, au Portugal, au Brésil, qui sont spécialistes de ces langues et qui font l'évaluation pour nous. Du coup, l'union fait la force, c'est ça la première force. Hein. C'est l'union fait la force, c'est-à-dire miser sur la biodiversité et le multilinguisme, ce qui ne va pas de soi, parce que d'un point de vue technique et d'un point de vue d'usage, c'est pas simple. Deuxièmement, miser sur un modèle économique, c'est-à-dire arrêter de faire en sorte que l'accès ouvert coûte de l'argent en revue, mais essayer de faire en sorte que ça leur en rapporte un petit peu pour qu'elles puissent payer leur salaire ou leur traducteur, etc. Donc, d'où l'idée d'un freemium que beaucoup nous ont critiqué, puisqu'on a été critiqué par...
Mais ils y viennent.
Ouais, voilà.
Ils s'y résout.
Et puis, troisième point, la recherche et développement. Et ça, c'est un des points majeurs, c'est-à-dire que le numérique va très vite. Et on est dans une concurrence frontale avec d'autres plateformes dans le monde qui ont des moyens démesurés par rapport aux nôtres. Elsevier, c'est 22 000 employés. Open Edition, c'est 50. D'accord. Donc on est minuscule. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est mobiliser des chercheurs en informatique, demander à Google de nous financer ce qu'il fait pour faire de la recherche et développement, pour produire de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de rester à l'état de l'art, voire pourquoi pas d'innover un peu.
Un choix personnel, Maradakos en l'occurrence.
Absolument, c'est la bande originale du film, de la série Peaky Blinders, que je regarde avec mon fils. C'est une magnifique série de gangsters, une sorte de western de vie urbain avec une magnifique photographie. Et puis, en plus, Nick Cave and the Bad Seeds a déjà un long passé derrière lui de création de musique pour des films, avec notamment Les Ailes du Désir. Et cette musique-là est particulièrement envoûtante.
Merci Marin Dacos d'être venu nous parler de votre travail et des humanités numériques aujourd'hui. Merci à vous Mathieu Pot-Benville. À la grande table, c'est Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Marie-Laure Ciboulet. À la technique, c'était Dophar Guérin.